RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
C'est en direct du salon Global Industrie ici à Villepinte. Nous avons amené nos trois GG, Bruno Poncet, le cheminot de Vierzon, Laura Vartour-Martinez, la sophrologue, Antoine Diers, le consultant auprès des entreprises. On va attaquer la troisième heure des GG dans cette troisième heure des Grandes Gueules. Vous savez, à midi moins 20, on voudrait savoir comment vous allez vous y prendre pour avoir vos billets pour Céline Dion. C'est la Céline Dion mania qui a commencé avec le coup d'envoi des concerts parisiens. Elle va jouer à la Défense Arena. C'est 40 000 places, c'est la plus grande salle couverte d'Europe. Mais alors, il faut s'inscrire. Il y a tout un parcours à faire. Moi, j'ai entendu des gens dire « Moi, je m'en fiche, si j'ai pas de billets, je vais quand même venir parce que je vais être dans l'ambiance Céline Dion dans la capitale quand ça va commencer au mois de septembre prochain. »
Laura,
ouais, je te jure.
C'est inscrite.
Non, moi, je suis dans les starting blocks. Hein.
Oui, mais tu es inscrite uniquement à un tirage au sort.
Je suis inscrite aux préventes avec 4 adresses mail différentes et j'ai mis mes meilleurs amis sur le coup aussi.
Et on a notre chef d'édition, Anne-Laure aussi. Elle est...
La baronne.
La baronne, bien sûr.
Oh, doucement avec Anne-Laure.
Et franchement, il y en a même, elle est même prête à tricher pour avoir des
Anne-Laure,
places.
Je te suis, j'irai où tu iras.
Non, mais en même temps, c'est une opération commerciale dingue. Alors, est-ce qu'il fallait impliquer la Tour Eiffel pour Céline Dion? Ça, c'est quand même.
Oui. On en parlera tout à l'heure à midi moins 20. Est-ce que vous allez faire tout ce qu'il faut, tout ce que vous pouvez pour obtenir les places pour les concerts de Céline Dion? On en parlera à midi moins 20. 11h20. C'est peut-être le Céline Dion de la politique, je sais pas, à droite. Édouard Philippe qui se détache. La droite peut-elle gagner en 2027? Alors, il y aura un combat des chefs, hein, vous en faites pas.
Parce que Édouard Philippe est de droite. Ça, c'est bien, là.
Justement.
Il y a déjà un scoop.
Il faut définir les termes de l'énoncé avant de
répondre. Il vient de la famille Juppé, donc tu peux dire qu'il est droite, même s'il a été premier ministre d'Emmanuel Macron. On en parlera tout à l'heure.
Il était de gauche quand il était jeune.
Mais on va s'intéresser d'abord à certaines réponses. On pense. Ça, c'est quand même une surprise d'apprendre qu'il y a des policiers de la BAC, de la brigade anticriminalité, qui sont intervenus au Bataclan, qui n'ont pas reçu de médaille, qui n'ont pas reçu la Légion d'honneur.
Oui, ce sont les policiers de la BAC 75N et ses fonctionnaires, depuis maintenant 10 ans, tentent de faire reconnaître leur implication dans le sauvetage de plusieurs otages ce soir des attentats le 13 novembre 2015 et notamment au Bataclan. Ils sont intervenus, alors ils n'ont pas été confrontés directement au terrorisme, ils sont intervenus pour évacuer les premiers blessés. Juste après l'intervention de cet homme, alors lui on en a beaucoup parlé de ce policier qui est arrivé sur place, il s'appelle Guillaume Cardi, c'était d'ailleurs leur chef à l'époque, aujourd'hui chef du RAID, et lui s'est présenté le premier avec son chauffeur dans l'enceinte de la salle de spectacle et au péril de sa vie il avait neutralisé un preneur d'otages, Samy Amimour, qui ensuite a explosé par sa ceinture explosive, et ensuite il s'était replié. Et ensuite, juste après ce Guillaume Cardi, sont entrés donc ces policiers de la BAC 75N qui ont réussi à évacuer les premiers blessés, et depuis on les a oubliés sur la liste de ceux qui doivent être récompensés. Et quand vous les interrogez, ils vous disent « Bon, déjà, pourquoi ? Pourquoi Étienne Dao et pas nous ?» Parce que Étienne Dao, je cite Étienne Dao, mais ça pourrait être d'autres, a reçu la Légion d'honneur. Est-ce qu'il fallait être tué ce soir-là ou blessé pour être décoré ?
Bruno Poncet.
Bruno, on va rappeler que ton histoire, tu étais ce soir-là au Bataclan.
Et moi, j'ai
été victime de l'attentat.
Ah ouais, moi, je dois ma vie, et on est quelques-uns devant notre vie à Guillaume Cardi, à son chauffeur, parce que quand il tire sur le terroriste qui est sur la scène, en fait, ça enraye l'attentat derrière, et donc après, ils prennent des gens en otage, mais en fait, ça enraye.
À partir de ce moment-là, ils ne tuent plus
Après, ils vont arrêter de tirer, parce qu'en fait. On peut se dire les choses, on est en grande gueule. Ils vont se retrouver avec des morceaux de leurs copains sur leur t-shirt, en fait. Donc parce qu'il va se faire exploser. Donc en fait, et donc après, eux, ils vont aller prendre des gens en otage, une dizaine de personnes à côté de moi, parce que moi j'étais à l'étage. Donc ils vont prendre des gens en otage à côté de moi. Et en fait, oui, l'intervention du commissaire de la BAC, Guillaume Cardi, et de son chauffeur nous a sauvé la vie. Et après, effectivement, d'autres personnes de la BAC sont venues pour aider au secours, mais parce que en fait, les mecs sont venus parce que déjà c'est leur boulot, et puis surtout, on les a appelés pour leur dire il se passe quelque chose, vous voir Voltaire en fait. Sauf que ça fait des années qu'ils essaient d'être reconnus. Et Olivier, quand tu dis, ou Alain, vous dites les oubliés, c'est pas des oubliés en fait. Parce qu'aujourd'hui, leur dossier, il est sur le bureau du ministère de l'Intérieur.
Emmanuel Macron leur avait promis qu'ils seraient décorés.
Ouais, en 2015, aux commémorations. En 2025, commémoration. Sauf que sur le bureau de Laurent Nunez, c'est toujours pas signé. Et c'est lui qui signe pas.
Et pourquoi ?
À se poser la question, et nous, on s'interpelle.
On parle de critères. Alors, quels sont les critères ? S'ils disent, ces gens-là ne répondent pas aux critères.
À quels critères ils sont arrivés ? Enfin, à un moment donné, vous savez, enfin, moi, après, je ne vais pas. Mais nous, victimes d'attentats, on a le droit à une médaille. Une médaille de victime civile de guerre. Moi, je l'ai refusée. Moi, je vois pas pourquoi j'aurais une médaille. J'ai rien fait d'exceptionnel ce jour-là. Enfin, je vois pas. Moi, j'ai refusé la médaille. Ces gens-là qui ont fait des trucs, ils n'ont pas de médaille. Nous, on comprend pas, en fait. Et on veut tout faire. Et merci d'en parler aujourd'hui. Mais nous, on veut tout faire pour qu'à un moment donné, ils soient reconnus. Enfin, à un moment donné, quand tu rentres dans une scène de guerre, moi, j'ai vu à la fin des policiers qui tenaient le mur, qui pleuraient, en fait. Ils avaient jamais vu de truc pareil. Donc, en fait, quand tu demandes à des policiers d'intervenir, moi, j'ai des amis qui ont été sortis par des policiers de la BAC. Après, ils ont su que c'est des gens de la BAC.
Parce qu'on estime qu'ils ont fait leur boulot et que, voilà.
Dans ce cas, tout le monde a fait son boulot.
Oui. Dans ce cas,
La BRI a fait son boulot.
Et pourtant, on les a que décorés, la BRI.
Et tant mieux. Donc, moi, je trouve que c'est pas normal que ces gens-là ne soient pas. Mais par contre, aujourd'hui, c'est à Nunez de faire le taf. Le dossier sur son bureau,
c'est monsieur Nunez, qu'attendez-vous ?
On attend toujours de savoir pourquoi.
J'ai beaucoup d'amis policiers que je salue. Tu demandais pourquoi pas eux ? Eh bien, a priori, au sommet de l'État, je ne dis pas que c'est juste, hein, j'essaye de comprendre leur raisonnement, ils ont choisi de médailler, de récompenser ceux qui ont participé à l'assaut, les colonnes d'assaut, ceux qui sont montés au feu. Et les agents de la BAC 75N, pour l'essentiel d'entre eux, ne sont pas montés au feu, mais ont sorti
les premières victimes
au risque de leur vie. Hein. Mais c'est pas proprement une action d'assaut, etc.
Ouais.
Et
ça reste
héroïque.
Ils font cette distinction.
Donc, c'est ça la distinction de l'État. Et en plus, les agents de la BAC 75N sont rentrés contre les protocoles contre l'avis de leur hiérarchie.
Alors, probablement c'est pas ça le truc. Ils n'ont pas respecté leur hiérarchie.
On va pas rester dehors, on peut pas rester dehors, on va rentrer malgré tout, essayer de sauver, de sortir des gens petit à petit.
D'autant plus décoré, justement.
Ces éléments de contexte, parce
parfois,
que ça me
vient de récompenser
aussi
la désobéissance.
Et donc,
Guillaume Cardi, le premier.
Voilà.
Guillaume Cardi,
il a désobéi, Guillaume Cardi.
S'ils avaient été malheureusement tués, à tout moment, les assurances qui couvrent ces métiers-là ne les auraient pas pris en charge parce qu'ils ont refusé. Donc ils doivent être.
Oui,
à
mais s'ils
si
avaient été tués, ils auraient été décorés à titre posthume.
Non, pas sûr. Une médaille à titre posthume, quand ta veuve ou ta famille ou ta mère pleure et que tu as zéro dédommagement et que ton assurance ne prend pas en charge, ta médaille, tu peux te la fourrer. Hein.
Et moi, ce que je voulais ajouter, c'est que pour beaucoup de ces policiers-là, cette soirée reste un traumatisme absolu sur. Qu'est-ce qu'ils auraient voulu faire de plus ? Comment ils auraient voulu être mieux armés, etc. Et donc, leur refuser cette reconnaissance pour des actes héroïques, en dehors des protocoles, en mettant leur vie en danger, je trouve que c'est une deuxième peine après le traumatisme.
C'est même très mesquin de faire des distinctions avec des critères qu'on ne connaît pas. Sincèrement, on serait dans un pays où on ne décorerait personne et ça serait exceptionnel. Mais bon, on décore.
Là, il y a Jean-Paul Rouve qui vient d'être décoré.
On décore des dizaines de gens. Chaque année, des artistes, etc., des animateurs télé, c'est ça qui n'est pas compréhensible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la décoration doit avant tout aller à ceux qui servent l'État et le collectif.
Mais c'était ça l'idée de la Légion d'honneur, normalement. Moi, j'ai toujours été surpris que la Légion d'honneur. Enfin, moi, j'ai mon grand-père qui est résistant, il n'a pas la Légion d'honneur. Il a donné sa vie pour la. Enfin, heureusement, il est sorti vivant, mais il a été résistant. Il n'a jamais demandé de médaille. On lui a fait une médaille après parce qu'ils en ont une. Mais en fait, la Légion d'honneur,
j'ai jamais compris qu'on donne. J'ai jamais compris qu'on donne la Légion d'honneur à des journalistes. Hein, pardon.
Et des hommes politiques aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait, enfin, à un moment donné. Et en plus, là, sur. Antoine a raison, en fait, l'histoire de l'assaut, c'est le truc qu'ils mettent comme critère. Mais en fait, il y avait une patrouille de sentinelles devant le Bataclan quand il y a eu l'attentat. Et en fait, beaucoup de parents de victimes ne comprenaient pas pourquoi les mecs n'étaient pas rentrés. Alors moi, pour en avoir parlé avec le général De Villiers et d'autres personnes de l'armée, m'avaient dit, ben non, s'ils rentrent là-dedans, ils sont pas habitués au maintien de l'ordre et tout ça. Moi, j'entends. Mais s'ils étaient venus, ne serait-ce qu'aider des gens à sortir, ça serait pas mal. Moi, j'ai jamais entendu dire que les mecs de Sentinelle avaient aidé à sortir des gens. Là, des policiers sont rentrés au péril de leur vie. Parce qu'on peut dire que l'attentat, il s'est un petit peu, ils ont arrêté de tirer à partir de ce moment-là. Mais s'ils avaient vendu, rentrer des policiers.
Au moment où ils rentrent, ils savent pas que.
Ah, ils savent pas, hein.
A priori, la patrouille Sentinelle a reçu des ordres directs de ne pas intervenir. Oui. Et le militaire. Lui, il respecte l'ordre, c'est l'ordre.
D'ailleurs,
ils s'en veulent.
Mais peut-être aussi parce qu'on ne veut pas gratter là où ça fait mal. Pourquoi, effectivement, on a mis autant
défaillance
de temps
à
intervenir? Il y a eu quand même un bug. Hein. Pourquoi?
C'est toute une doctrine.
Parce qu'on pensait avant
les attentats de masse comme ça, où on dit surtout n'entrez pas, restez à l'extérieur. Il y a des unités spéciales qui vont arriver.
Et puis surtout,
après ça, on a changé.
Et puis on disait, on peut négocier, sauf qu'on a bien compris. Que les théories sont pas là pour négocier. Ils sont là pour faire le maximum de victimes et ensuite se faire exploser. Donc il y a eu urgence au contraire à intervenir.
Moi j'avais pensé en plus et je l'avais dit à la jeune femme que j'ai un peu protégée pendant le truc. J'avais dit, moi j'étais convaincu qu'en fait les terroristes attendaient que la police, les pompiers rentrent pour faire péter en fait. Comme ils avaient fait, tu sais, dans le théâtre russe. Je lui ai même dit pendant le truc. Hein.
Bah, tu t'es rassuré
pendant l'attentat, je lui ai dit, écoute, je pense qu'ils vont faire comme le théâtre russe, donc tu vois, si ça pète, tu te protèges avec le ciel. Parce qu'en fait, moi j'attendais qu'ils allaient faire comme ça, tu sais. Ils se disaient, ils vont voir rentrer les pompiers, les flics, à ce moment-là, ils font tout péter. Heureusement, ils l'ont pas fait. Mais en fait, et c'est pour ça, on comprend vraiment pas. Et moi, mes amis qui sont victimes comme moi, on n'arrête pas de se poser la question, de se dire, mais à quel moment? Moi, je sais bien qu'ils aient désobéi, mais quand tu désobéis pour sauver des vies, c'est quoi le principal? Notre truc, c'est que tu obéisses à un ordre ou que tu sauves des vies. À un moment donné, il faut comprendre, faut savoir ce que tu veux, en fait. Et aujourd'hui, s'il n'y a eu, et je mets ça avec des gros guillemets, s'il n'y a eu que 90 morts physiques ce jour-là dans le Bataclan, c'est aussi peut-être parce qu'à un moment donné, les policiers ont désobéi. Donc arrêtons de ces côtés de guerre, tu rêves de boutique et tout, en fait.
Ce qui est curieux, c'est que quand des journalistes interrogent le ministère de l'Intérieur sur cette question, ou la préfecture de police, il n'y a pas de réponse.
Non.
Parce que la réponse est ridicule.
Il n'y a pas de réponse précise. Ah,
pourtant, Nunez, il est assez fort pour envoyer un mail à Bali Bakayoko pour lui expliquer qu'il ne faudrait pas qu'il touche à sa police municipale. Donc, à un moment donné, tu vois, nous, on se pose plein de questions. Et tu vois, ces commémorations qui étaient, mais moi, que j'ai trouvé insupportables l'année dernière, au mois de novembre, je te l'avais dit à l'antenne, je trouvais ça insupportable, ces commémorations, parce que c'était pas une commémoration pour les victimes, une commémoration pour tous les politiques qui voulaient se faire serrer la pince. Macron annonce ce jour-là qu'il va leur donner une médaille. Ils ne l'ont toujours pas 6 mois plus tard, quasiment. Il y a un vrai problème à un moment donné de logique. Et comment tu peux après expliquer aux gens que quand t'es policier, tu vas donner ta vie pour des trucs si à un moment donné on te reconnaît même pas le fait que t'as fait un acte héroïque? Moi je comprends pas, et réellement, mais personne peut comprendre ça.
Parce que le message qui est donné, il est transmis aussi au-delà à toute l'organisation policière, c'est toute la coopération des policiers qui eux-mêmes en prennent suffisamment plein la figure à longueur de journée, à longueur de temps. Ils sont sous le feu des critiques pour quand certains effectivement désobéissent, même s'ils ne sont pas en premier et ils n'ont pas été touchés par des balles ou quoi que ce soit, de dire bah écoutez les gars, vous savez quoi, la prochaine fois on va attendre les ordres, quoi, on va rester assis. Quand t'es policier, t'as envie de cette reconnaissance aussi. Je pense que t'as envie de la médaille, t'as envie de la breloque. Pardon, je dis breloque, mais t'as envie d'être reconnu humainement. Puis la médaille qu'on te remet, c'est à titre individuel. Dire merci pour ce que vous avez fait, merci d'être passé outre, merci d'être vous êtes mis en avant, merci d'avoir pensé à l'autre. Quoi.
On a décoré un chien, là, le chien diesel, mais on décore pas ses hommes.
Que moi, j'ai écrit au commissaire de la BAC, Sercum. Oui. À un moment donné, moi, j'allais voir le psy. C'était à Porte Pouchet. C'est juste à côté de la porte de Saint-Ouen. Et j'allais voir le psy là-bas. Et un jour, j'ai fait un plateau télé chez vous d'ailleurs, en 2016. Et je me retrouve face à un mec syndiqué d'Alliance. Évidemment, je me chicane avec lui sur le plateau. Mais en sortant, je dis, écoute, j'ai besoin de toi. Tu peux me donner l'adresse du policier de là-bas qui est rentré? Je voudrais lui dire merci. Il me dit, je ne peux pas te donner son nom, mais je te dis à quel endroit il travaille. Et bien, il travaillait son poste, c'était là où j'allais chez le psy. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je lui ai écrit une lettre, ils lui ont donné, il m'a répondu. Et moi, après, je l'ai vu au procès, c'était Guillaume Cardi, et en fait, j'ai parlé avec lui. Et il me dit, mais moi, j'ai fait que mon travail. Mais nous, les victimes, on leur doit notre vie, tu vois. Et donc, ces gens-là, ces gens de la BAC qu'on veut pas récompenser, nous, on leur doit notre vie. Alors, je sais que ça vaut pas une médaille. Mais nous, moi, je peux dire à ces gens-là, à tous ces policiers, nous, les victimes qui sont encore survivantes, on doit notre vie à ces gens-là. Donc, à un moment donné, si l'État peut pas le faire, nous, on peut le faire.
On a Maxime qui est dans les GG, qui nous appelle de la Drôme, directeur commercial. Bonjour Maxime.
Oui, bonjour les GG, bonjour Alain.
Comment vous avez réagi?
C'est scandaleux. Je suis dans ma voiture, j'entendais votre sujet. J'ai dit, je vais me garer. C'est une honte. C'est scandaleux. On a décoré, Laura l'a dit il y a deux minutes, on a décoré Jean-Paul Rouve, un acteur. On a décoré plein des acteurs, des artistes, des chanteurs qui nous font la morale à longueur de journée pour X ou Y raison. Et là, on a des policiers qui ont sauvé des vies, neutralisé un terroriste, vraiment sauvé des vies. Et ça fait 10 années qu'ils attendent qu'on les décore et on les ignore, on leur répond pas. Mais on se fout de la gueule du monde, en fait. C'est une honte. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Je pense pas qu'une signature sur un papier... Bruno Poncet parlait tout à l'heure d'un papier sur le bureau de Laurent Nunez qui attendait une signature, ça prend 3 minutes. Donc en fait, le message que je voudrais faire passer, c'est à ces gens-là, réveillez-vous. Réveillez-vous parce que c'est une honte ce qui se passe. C'est vraiment honteux.
Il y a un problème dans les critères et dans la sélection des gens qu'on veut décorer, quoi.
Mais je crois on décore les copains, on décore, ça fait sympa de décorer un acteur, on profite de sa notoriété. C'est sympa, ça fait briller, ça fait des jolies photos.
Je crois qu'on décore même un Premier ministre lorsqu'il a passé plus de 6 mois à Matignon, je crois.
Bah, en même temps, maintenant, c'est un exploit. Oui. Ouais, c'est ce avec Macron et ses 6 mois à Matignon, c'était quasiment un héros, quoi, en fait.
Oui, c'est clair, c'est un héros, mais a priori, on n'a pas tous la même sélection sur les héros. Pour le coup, on peut le prendre avec humour, c'est
sûr.
Clair. Mais
c'est-à-dire que si effectivement, dans l'année, il n'y avait que 10 Français qui étaient décorés, on pourrait dire il faut des critères.
En tout cas,
mais en fait, la décoration, maintenant,
Maxime, ça lui a mis un coup, il a préféré s'arrêter, appeler ouais. Les grandes gueules. Qu'est-ce que vous en dites, vous, sur les réseaux sociaux, justement? Merci, Maxime, d'avoir été avec nous et reprenez votre route tranquillement. Et merci de votre fidélité au GG. Les policiers de là-bas qui sont privés de décoration, vous dites oui, c'est scandaleux, à plus de 91%. Dans un instant, est-ce que vous pensez que la droite peut gagner 2027? Regardez ce qui se passe depuis les élections municipales. Regardez comment les uns et les autres se positionnent. Regardez déjà les propositions qui commencent à arriver. Les appels à l'union, les rencontres David Lisnard, Bruno Retailleau, comment Édouard Philippe se positionne. Là, il fait encore une interview au Figaro dans laquelle il parle d'immigration. Est-ce que vous pensez que la droite peut gagner 2027? 32-16 pour en discuter avec les GG. Mais de quelle droite parle-t-on?
Exactement.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, ici en direct du salon Global Industrie à Villepinte. À l'instant, je discutais avec un fidèle des GG qui est de l'Institut de Soudure et qui me parlait de la soudure de pointe. Parce que quand on dit soudure, tu sais, on voit le type avec le casque, des étincelles partout. Et il me disait la soudure de pointe aujourd'hui, tout ce qui concerne la microélectronique. Il me dit les Français sont parmi les meilleurs au monde. Et il me dit c'est des valorisations qu'il faut justement mettre en avant. Oui. Donc voilà, c'est intéressant de discuter avec tous ces champions de la tech ici en France et dans des métiers ou des filières qu'on ne connaît pas forcément. Filière qu'on connaît bien en France, c'est la filière politique. Celle-là, on la connaît. Elle ne manque pas de candidats.
La filière droite du vent.
Il manque juste des bons candidats.
Alors, je ne sais pas si on a les bons. Dans tous les cas, sur la ligne de départ à droite, on commence à avoir pas mal de candidats, de Bruno Retailleau à David Lisnard, en passant par Édouard Philippe. La droite peut-elle gagner en 2027? 2027 ne peut pas échapper à la droite. Venez en parler au 32-16.
Alors, tu parlais de soudure. Il faut de la soudure pour la droite. Parce qu'il faut déjà la rassembler, la souder. Et pour l'instant, elle ne l'est pas. Alors, j'ai vu que Laurent Wauquiez avait tendu la main à Bruno Retailleau, son meilleur ennemi chez les LR. J'ai entendu aussi François Baroin. Vous vous souvenez de François Baroin? Il vient d'être élu maire de Troyes. On l'a un peu oublié, mais c'est l'un des notables de la droite. Et lui, il a poussé un coup de gueule au bureau national des LR en disant « Mais il nous faut un vrai candidat de droite. N'allons pas surtout avec les macronismes. On n'est pas là pour sauver le macronisme. » Et c'est peut-être un problème avec la candidature d'Édouard Philippe, parce que Édouard Philippe, c'est avant tout le macroniste du premier quinquennat Macron, son premier ministre. C'est l'homme des 80 km/h, c'est l'homme qui a fait quand même un peu capoter la première réforme des retraites, la réforme par points, parce qu'il n'en voulait pas, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est l'homme aussi du confinement, etc. Et donc c'est un homme que beaucoup d'électeurs de droite rejettent, parce que ce n'est pas vraiment la vraie droite, c'est la droite jupéiste, celle d'ailleurs qui avait avait perdu à la primaire de la droite parce que les électeurs de droite n'en voulaient pas. Et là, certains se disent à droite, mais non, c'est pas Édouard Philippe notre candidat. Notre candidat, il doit être vraiment de droite. La droite qui n'a plus gagné une présidentielle depuis 2007, hein, ça fera 20 ans l'année prochaine, hein, depuis Nicolas Sarkozy. Ouais. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, elle peut gagner et comment?
Laura, c'est à droite, ça, ou pas?
Moi, ma droite, je n'en vois pas. Moi, j'ai envie d'une droite libérale, j'ai envie d'une droite entrepreneuse, j'ai envie d'une droite où, oui, il y a de la sécurité, sans faire constamment de la discrimination. Et franchement, là, dans le panel politique, moi, je trouve qu'on a une droite très pauvre. Mais tout comme le fait qu'on a une gauche très pauvre. Et c'est notamment pour ça qu'on a les deux extrêmes qui sont en train de monter en puissance. Parce que le panel politique, il est affligeant. Enfin, moi, je cherche... Tout le monde, en fait, remet à peu près à sa sauce. Alors, ça marche chez le copain. Alors, je vais le récupérer, mais je vais le modifier. Je vais mettre mes mots à moi. Et comme c'est moi qui le dis, ça passe. Mais on n'a aucun... Je vais parler du...
Mais est-ce qu'Edouard Philippe, par exemple, serait un bon candidat pour la droite?
Non, lui, il faut qu'il s'en aille. Hein, Oui, non, c'est
pour l'instant. Il est au Havre, il est maire du Havre, donc il est mieux au Havre.
Reste au Havre.
C'est le mieux placé dans les sondages.
Peut-être, mais moi, j'en veux pas. Enfin, non, je veux pas Macron en pire.
C'est Macron en pire.
Ah, pour moi, c'est Macron en pire.
Bruno?
Moi, ce que je vois, c'est que...
Toi qui es de droite.
Ah, moi, je suis de droite, mais...
droite dure, Bruno.
La droite très dure, moi, ça, c'est sûr. Non, mais en fait, moi, j'ai vu, il y avait une tribune, là, d'élus de droite et du centre qui disent qu'ils font un candidat unique et tout. Ils sont 90 à signer, là. Cette tribune, je sais plus si c'est dans le Figaro ou ailleurs. Oui. Ben, moi, je me dis, il y a 90 signataires, mais je crois qu'il y a 90 candidats aussi à droite. Parce que tu vois, aujourd'hui, tu as toujours un nom qui sort. Rappelle-toi, il y a pas si longtemps, il y avait Aurore Berger qui voulait être candidate. Cette dame qui est quand même exceptionnelle au niveau au niveau.
Yael Braun-Pivet aussi.
Braun-Pivet. Enfin, en fait, tu vois, il y avait autant de candidats qui étaient courants dans ces partis. Sauf qu'en fait, à limite qu'ils arrivent. Et moi, je te dis franchement, moi, je suis pour qu'il y ait environ 5-6 candidats à droite. Comme ça voudra dire.
Mais c'est quoi la droite? Parce que tu parles de Laurent Berger. Est-ce que Laurent Berger est à droite?
Elle est au LR.
Le macronisme est de droite. Est-ce que les gens qui ont gouverné ce pays depuis maintenant presque 10 ans peuvent incarner la droite? C'est ça la question.
Tu me dis ça à moi. Moi, je t'ai déjà dit que les fils, c'était quasiment à droite.
Ouais, mais pour toi, Glucksmann est d'extrême droite.
Ah, bah, pour moi, Glucksmann, pour moi, il devrait même pas se présenter en France. Il devrait rester en Géorgie.
Moi, je trépine dans tout ce que j'entends, parce qu'effectivement, moi, quand on me dit la droite, ça me parle. Moi, je me définis comme un militant de droite. J'ai commencé à militer, j'avais 15-16 ans, et en disant, bah, je suis de droite. Qu'est-ce que c'est que la droite? Libéralisme, plus de sécurité, moins d'immigration. Qu'est-ce que ça n'est pas, la droite? Ça n'est pas Édouard Philippe. C'est-à-dire que ça n'est pas possible. Je pense que la droite française est morte quand elle a décidé de dire, il y a 20 ou 30 ans, la droite est le centre. Tout le temps, il n'y a plus personne qui dit la droite, tu vois. Tout le monde dit il faut faire une primaire de la droite et de
le centre, c'est l'ennemi de la droite.
La droite s'excuse toujours en s'associant avec le centre. Et nous avons un dernier exemple en date, Rachida Dati. Les voix de Pierre-Yves Vandazel sont allées où? Bon, pas toutes à droite, hein, et elles sont plutôt parties vers la gauche. Pendant que les voix des électeurs de Sarah Knafo, par exemple, sont allées plus facilement et plus largement vers Rachida Dati. Eh bien, je pense que la droite française est victime d'une sorte de strabisme. Depuis des années, elle regarde du mauvais côté. Elle pense que ses réserves de voix sont au centre et qu'il faudrait être modéré, calme, pro-européen, etc.
Le RN, c'est
alors,
la droite
quand,
c'est...
Alors, je ne pense pas que le RN soit la droite. Ah. En revanche, je pense, et le RN le dit lui-même, nous, on n'est ni de droite ni de gauche. En revanche, je pense qu'à cause du strabisme de la droite qui regarde toujours vers le centre, elle oublie ses électeurs, qui sont des électeurs de la bonne droite, la vraie droite, quoi. Moins d'immigration, plus de sécurité, moins d'impôts, basique, simple, de droite, quoi. Et elle laisse ses électeurs partir vers l'URN. Et ben en fait, si la droite veut gagner demain, si elle veut gagner en 2027, ben en fait qu'elle redevienne la droite et qu'elle reprenne ses électeurs historiques.
Donc c'est plutôt Bruno Retailleau si on prend.
Mais même Bruno Retailleau, c'est un peu faiblard. Pardon, c'est moins pire que d'autres.
Parler, on va en parler avec Jordan, je crois. Bonjour Jordan.
Jordan. Alors Jordan, prêt pour la candidature.
Alors Jordan, cadre dans les Hauts-de-Seine.
Ah non, c'est pas lui.
Oui.
Qu'est-ce que vous en dites, Jordan?
Avec Bardella, j'en ai marre.
Ouais, c'est dur, ouais, c'est
on imagine. On doit vous emmerder tout le temps.
On va arrêter parce que vous avez un vrai métier en fait.
Oui. Moi, ce que je dis déjà, c'est on n'a pas tous la même élection de la droite. Vous parlez d'une personne à une autre, ça change à chaque personne. Donc, bon, déjà, je trouve que c'est pas très significatif. C'est sûr que s'ils vont leur disperser, personne ne va gagner, c'est clair. Moi, je pense que la France a besoin d'un tournant libéral. Et pour moi, le libéralisme, c'est pas forcément une histoire de droite ou de gauche. Parce que, par exemple, en Nouvelle-Zélande, le tournant libéral, il a été fait par la gauche. Donc, c'est même pas une question de droite. Mais bon, le libéralisme de la gauche, on le verra jamais en France. Moi, la position que je soutiens, c'est, je pense, c'est celle actuellement de David Lisnard. Je pense qu'il a raison sur ce qu'il dit. Et c'est le seul qui a vraiment une position libérale assumée. Le problème, c'est que tout seul, il fera 2% de la présidentielle et on n'en reparlera plus. Donc, je pense qu'il y a des gens qui doivent s'assumer.
Voilà. Et vous avez vu qu'il veut claquer la porte des Républicains, d'ailleurs.
C'est déjà fait. C'est déjà fait pour tout le monde. C'est déjà fait.
Ouais, ça fait la première page de tous les journaux, je crois.
Il est reçu par Retailleau qui veut le retenir.
Ouais, mais bon, enfin, moi, les étiquettes, je m'en fous globalement.
Oui, l'étiquette politique, c'est pas le problème.
Les étiquettes, on s'en moque au final, et je pense que les Français s'en moquent au fond. L'idée, c'est d'avoir un projet clair, et je pense que toute personne qui comprend que la France étouffe face à son collectivisme a besoin d'un tournant libéral qui se rejoigne autour d'une personne et on, même la tête, je ne sais pas aujourd'hui.
Mais pour vous, le curseur, Jordan, le curseur de la droite, c'est l'économie, c'est moins d'impôts, c'est être libéral, pro-business, pro-entreprise, c'est ça.
L'économie, c'est le moteur d'un programme. Tout ce qui est.
Excusez-moi, je peux vous interrompre, Jordan, mais Macron, il a un peu incarné ça.
Non, c'était la promesse.
Il a baissé la promesse à 25% et après, c'est tout. Il n'a rien fait d'autre de libéral et après, il s'est contenté.
Macron, il a été quand même rejoint par beaucoup de gens de droite.
Oui, mais ils ont tous
dans
été déçus parce qu'ils ont vu qu'il
aujourd'hui,
a pas
Gérald
fait,
Darmanin...
il a pas fait ce
qu'il
fallait. Gérald Darmanin de droite, peut-être sur le régalien, sur l'économie.
Oui, mais sur le régalien, il est décevant, Darmanin.
Attendez. Emmanuel Macron, la plupart de ses ministres, ceux qui ont eu des postes importants, et de ses premiers ministres, viennent de la droite. Ils viennent des LR. L'actuel, Le Cornu, il est LR. Jean Castex, c'était LR.
Bruno Le Maire.
Philippe était LR. Ses ministres les plus puissants, Bruno Le Maire, Darmanin, Rachid Hatti,
Retailleau,
Catherine Vautrin. Alors moi, j'adore parce que les gens me disent que Emmanuel Macron est de gauche. Enfin, il a gouverné essentiellement avec la droite.
Et puis avec les meilleurs de la droite.
Antoine,
soyons très clairs. Tous ces gens que tu as cités qui viennent effectivement des LR, qu'est-ce qu'ils ont vu? Oh les gars, on a encore pris une tôle électorale, on est dans 5 ans dans l'opposition. Moi j'ai un pavillon à payer, faut que j'aille bien bouffer, donc je vais devenir ministre. C'est ça qui s'est passé. Ils ont tous abandonné leur camp. Et l'électeur et le sympathisant LR leur reprochent ça à ces gens-là. Il y a encore Jean-Didier Berger, tout récemment, qui bascule côté macronisme. Le ministre de l'Industrie, si je dis pas de bêtises, il est plutôt de droite. Et il va côté macronisme. Ils y vont pourquoi? Voilà, pour réussir. Et ils y vont. Pourquoi ils y vont encore maintenant alors que le macronisme est à son crépuscule? Parce qu'ils ne sont pas bien sûrs que la droite gagne.
Donc, il faut donc un candidat de droite qui n'a pas rejoint Emmanuel Macron.
Et donc là, Bruno Retailleau est un peu en difficulté. Alors, il a
donc
un
c'est
peu
plus tapé Laurent Wauquiez alors.
Et je ne suis pas sûr que Laurent Wauquiez soit en meilleure posture, mais en réalité. Quel est ce candidat qui réussirait à incarner aux yeux des Français, de l'électeur de droite, quelqu'un qui n'est pas compromis avec le macronisme et quelqu'un à qui on peut faire confiance? Parce que la droite, à chaque fois, on pense voter pour plus de sécurité. Et bien, pourquoi pas?
C'est son
profil
que vous êtes en train de décrire.
Jordan, on va écouter Julien des Bouches-du-Rhône qui est dans l'immobilier. Bonjour Julien.
Ouais, salut.
Bienvenue
les GG.
Dans les GG. Alors, pour vous, est-ce que la droite peut gagner 2027? Ou 2027, c'est inratable pour la droite? Dites-moi.
Ben, si la droite s'allie derrière Édouard Philippe, c'est inratable pour eux. S'ils font tout autre choix, c'est perdu. Et tout ce que l'on voit aujourd'hui, tous les barons de la droite le savent. Il y a une prime au partant et forcément, ça sera soit Édouard Philippe, soit accident de type Strauss-Kahn, ça sera la gauche. C'est soit le choix Édouard Philippe avec les barons de droite derrière lui.
Pourquoi vous êtes si sûr de...
Parce qu'il y a plus de place pour la droite.
Pourquoi vous êtes si sûr?
Il n'y a plus de place pour la droite.
Mais Julien, pourquoi vous me dites un an après, vous êtes sûr que c'est Édouard Philippe?
Ça sera Édouard Philippe, parce qu'il est porté par les sondages, et que la campagne...
Oui, mais un an après, les gens qui sont portés par les sondages sont souvent perdants.
C'est pas dans un an, les GG. La campagne, c'est pas dans un an. Le choix des candidats, c'est...
Oui, mais le vote, c'est dans un an.
C'est dans 3 mois. Hein. Donc, dans 3 mois, dans 4 mois, c'est là où la campagne, elle va vraiment commencer. Et moi, je le dis clairement, tout le tralala des barons de la droite, c'est uniquement un troc sur les places de ministre, premier ministre. Je vais finalement te
Julien,
te soutenir.
Julien, je me suis amusé à regarder les sondages en 2016, un an avant la présidentielle de 2017. Vous savez qu'un an avant, les sondages ne testaient même pas Emmanuel Macron. On testait François Hollande et Manuel Valls. On testait à l'époque des gens qui n'ont même pas été candidats. Vous voyez, donc attention à ces sondages.
Et moi, je voulais dire une toute petite chose, c'est qu'aujourd'hui, la qualification au second tour, elle se fait autour de 18%. Et donc, il suffit d'être en mesure de rassembler 18% au premier tour, de solidifier une base et de constituer un socle plus large au second. Moi, je suis assez partisan d'une primaire dès le premier tour.
Voilà. Et de toute façon, déjà, ils ne sont même pas d'accord, primaire ou pas primaire. Est-ce que le juge de paix, comme le disait Olivier, sera les sondages? Si les sondages portent Édouard Philippe, bah, à ce moment-là, peut-être que tout le monde se rangera derrière lui. Sans oublier aussi les coups bas qui viennent de ton camp. Et ça...
Est-ce qu'il a eu des beaux costumes, Édouard Philippe? Il faut faire gaffe aux costumes.
Il y a des précédents qui nous font toujours dire que les élections, elles sont jouées pas à l'avance, ça c'est une certitude. Alors, est-ce que la droite peut gagner en 2027? On va regarder ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. Oh là, non, c'est très partagé. La droite peut-elle enfin gagner en 2027? Oui, 48, non, 51,8. Allez, c'est pour chaud. Terminer, vous savez quoi? On va vous donner la parole sur Céline Dion, parce qu'on voit bien que ça y est, la machine se met en marche.
Laura est dans
Céline
la machine.
Dion. Elle va faire deux shows par semaine à partir du mois de septembre à la Défense Arena, 40 000 places, et c'est l'inscription pour avoir des billets. Est-ce que vous allez tout faire pour avoir des billets? Est-ce que vous allez même venir à Paris pour être dans l'atmosphère Céline Dion, même si vous n'avez pas de billets? C'est au 32-16 que vous venez en discuter avec les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
En direct du salon Global Industrie ici à Villepinte, les grandes gueules avec Laura Varton-Martinez, avec Bruno Poncet et avec Antoine Dirce. Il nous reste 10 minutes à passer ensemble, 10 minutes où on compte sur vous au 32-16 pour parler de Céline Dion.
Je vais avoir la chance d'aller vous voir et de pouvoir encore chanter pour vous à Paris. Je suis tellement contente. J'ai vraiment trop hâte de vous revoir.
Chez moi, les forêts se balancent et le toit gratte le ciel. Les eaux détendent sans violence et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tout est en forêt qu'on fait. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine.
Ça y est, la Céline Dion Mania, c'est parti. Les concerts, c'est au mois de septembre prochain. Je vais vous trahir quelques secrets. Ici, alors sur le plateau, on a Laura Varton-Martinez qui n'en peut plus. Sur le groupe WhatsApp des Grandes Gueules, on a Anaïs Sainz, on a Anne-Laure de Ruby, qui sont à fond, qui se sont mis avec leur mail perso sur les listes d'attente pour avoir les places. Bref, mais on n'est pas sorti des ronces.
Alain, je te fais un aveu, je me suis inscrit ce matin, j'ai essayé hier soir, c'était trop long et je me suis endormi sur mon canapé avec le smartphone à la main.
Mais parce que tu es fan de Céline Dion, toi?
Non, mais j'aime bien
alors
bien
tu
le
mérites pas.
J'aime bien le personnage et j'ai envie de voir Céline Dion sur
non,
scène.
Non, mais tu retires, il n'y a pas assez de places. Les places, c'est pour les vrais fans.
Non, je pense
que tu n'as pas fait ton entrée des mariés. Alors, sur Céline Dion, tu ne mérites pas ta place.
Il y a 10 soirées, hein, on va donner les dates. C'est à partir de septembre jusqu'en octobre, du 12 septembre au 14 octobre. Ça ne sera pas tous les soirs, c'est deux soirs par semaine. Il y a 10 soirées, il y a 45 000 places, donc il y a 450 000 personnes susceptibles de voir Céline Dion.
Mais il y a le monde entier qui va se déplacer.
Elle a effectivement choisi Paris. Mais Céline Dion, c'est une star internationale. On a mobilisé la Tour Eiffel hier quand même pour son retour. Alors c'est quand même assez compliqué, Laura, explique-nous, parce que pour s'inscrire, en fait, on va sur un site et ça donne droit simplement à participer à un tirage au sort.
Oui, alors déjà, tu dois t'inscrire du coup sur le site de Céline Dion, donc tu dois devenir membre officiel du site de Céline Dion, et ensuite tu t'inscris pour le tirage au sort. Moi, j'ai utilisé 4 adresses mail différentes pour m'enregistrer. Je mets toutes les chances de mon côté. J'ai mes meilleurs amis qui sont aussi dans les starting blocks. Il est hors de question que je ne sois pas à ses concerts.
Pourquoi ?
Et parce qu'elle a bercé mon enfance, elle a bercé ma vie d'adolescente.
C'est fin de soirée, moi.
Même le début. Céline Dion, c'est mon entrée des mariés. C'est Céline, quoi. Et je pense que toutes les filles de ma génération et même de la génération de ma maman, on est là, c'est la Céline.
C'est une icône pour toi ? Son parcours aussi, mais parce que elle revient de loin, elle est malade.
C'est on sait qu'elle pourrait jamais. C'est tout, plus c'est-à-dire que c'est une jeune fille de famille nombreuse qui est arrivée de sa petite campagne et qui devient une star mondiale qui, à travers.
Francophone,
de surcroît. Et puis, même au niveau de son histoire amoureuse, elle a pété tous les codes. Normalement, les stars internationales comme ça, elles doivent se mettre avec un beau mec qui vient aussi.
C'est bon,
ouais.
Ah non,
une système d'émission
intérieure,
oui, c'est ça.
Voilà, elle a réussi, pardon de l'expression, mais elle a quand même réussi à dire merde à toute cette industrie qui ne voulait absolument pas qu'elle soit avec René. Et tant pis, et je veux dire, elle a mis le truc à fond.
Elle a un capital sympathie, comme on dit, assez fort aussi.
Tu l'as jamais entendu dire du mal de qui que ce soit. La seule chose qui l'intéresse, c'est de faire plaisir à son public. Pardon, mais.
T'as pas parlé des places. C'est combien les places ? Pardon.
Non, ça va de 90 à 250 euros.
C'est pas si cher.
C'est plutôt raisonnable.
Je pensais que ce serait très cher.
Non, franchement, elle a joué. Bah, parce que voilà, c'est Céline. Et Céline, elle est dans le partage.
Parce qu'elle choisit aussi la France. Aux États-Unis, par exemple, ça serait beaucoup plus cher, les places.
Okay. Elle a été en résidence à Las Vegas, si tu veux, puis elle a toujours eu la France au cœur.
Elle a dit « Je t'aime à René d'à Paris ». C'est à Paris qu'elle a déclaré son amour à René.
Oui, s'il vous plaît. On a Delphine qui veut intervenir dans les GG. Avant que tu ne parles, Bruno, laissons parler les fans.
Bruno est un...
Toi, tu vas dénigrer, ça va m'énerver.
Delphine, bonjour.
Bonjour les GG.
Alors, vous vous êtes inscrite, Delphine ?
Ben, j'ai eu beaucoup de mal hier soir, mais là j'ai 2 heures devant moi et je vais y consacrer mes 2 heures.
Vous avez raison.
Pourquoi autant de passion ?
C'est une artiste que j'admire vraiment depuis le début de sa carrière. C'est quelqu'un d'accessible. Je parle même pas de son talent. Son public lui tient vraiment à cœur. Elle est géniale. Elle est géniale. J'ai été jusqu'à Las Vegas pour la voir en concert.
Waouh, vraie fan. Est-ce que sa participation à la cérémonie des JO a beaucoup fait également pour cette envie la revoir en fait ?
Je pense, parce qu'après avoir vu le documentaire sur Netflix qui était quand même dur, on pensait pas, on croyait pas un retour, et puis alors quel retour ! Quel moment magique !
Moi je suis comme Delphine, j'y croyais plus. Hein.
Non,
je pensais ne plus jamais la revoir. Et donc là. Quand j'ai commencé à voir les affiches dans Paris, j'ai déjà...
Alors, Delphine, on va voir ce qu'en dit Béatrice, qui est avec nous, Béatrice qui nous appelle des Landes. Delphine, sa passion pour Céline Dion l'a emmenée jusqu'à Las Vegas pour la voir en concert. Elle ne voudrait pas la rater ici à la Défense Arena. Béatrice, bonjour.
Bonjour les GG, c'est ma première fois, je suis trop contente et émue.
Bienvenue.
Et alors,
le salon Global Industrie en plus.
Est-ce que vous avez réussi à vous inscrire, dites-moi.
Oui. Hier soir, c'est vrai que, comme disait tout à l'heure, je ne sais plus. C'était très très surchargé. Et ce matin, je me lève de bonne heure. Donc ce matin, j'ai réussi. Et comme je disais à votre collègue, j'ai reçu le code. Pour le tirage au sort. Donc je suis. Oui, ça y est. Donc je suis.
Attendez, est-ce que vous avez compris combien de personnes seront tirées au sort ? Ça, c'est pas très clair, parce que ça va être début avril. C'est la semaine prochaine, il y a ce tirage au sort. Mais on ne sait pas précisément. Alors, la masse, quelles sont les chances en fait des uns et des autres ?
Non, mais bon, je tente la chance parce que ça fait tellement de temps que je voulais la voir en concert. J'ai une vie très mouvementée. Et donc là, je me suis dit, c'est peut-être ma dernière chance. Donc je vais faire tout mon possible pour y croire. Voilà, j'attends avec impatience la réponse. Et puis comme je dois monter à Paris cet automne, j'essaye de faire coïncider. Ça tomberait très bien.
J'avais réussi à avoir les places pour la précédente tournée, celle qui a été annulée pour le Covid et ensuite pour cause de maladie. Je ne vous explique pas la rage que j'avais.
Alors Bruno, il a la rage aussi, non ?
On n'a pas les mêmes priorités dans la vie. Moi, hier, je me suis battu pour avoir les places pour Jack White. Et là, je vois les gens. Et là, ce matin, j'ai mon pote.
Finalement, c'est la même chose.
Non, mais
que ce soit Céline Dion, Jack White.
Moi, je suis dingue. Mon pote Steve, pour qui j'ai pris les places pour Jack White, pour tous les deux, il veut des places pour Céline Dion. Eh ben, je vais l'annoncer en direct. Steve, tu n'iras pas voir Jack White. T'as qu'à aller voir Céline Dion. Va voir ta Québécoise et moi, tu m'oublies. Je vais te dire un truc. Plus jamais je vais à un concert avec toi.
Je ne vais plus être en plateau avec cette personne.
Ah non, c'est pas possible.
Est-ce qu'on en fait trop?
Non, je pense. Réellement, moi, pour être un fan de musique, je pense. Pour des gens comme ça qui sont très rares, moi, on n'en fait jamais trop. Si t'aimes ça, t'aimes ça. Après, moi, ce qui me fait déjà un peu flipper, c'est les prix. Parce qu'aujourd'hui, tu te rends compte que, par exemple, là, tu vois, tu veux aller voir Lady Gaga, enfin Madonna, c'est des tarots insupportables pour le commun des mortels, moi, je trouve.
Là, c'est raisonnable.
Hein, bah là, c'est vrai que c'est, pour l'instant, si ça reste comme ça, je trouve ça pas mal.
Ensuite, moi, tu vas voir les carrés or et les carrés VIP, mais sinon, la grosse majorité des places, c'est entre 89 et 250.
Alors, moi, pour avoir été à l'Arena voir Lenny Kravitz, le son est moins dégueulasse que le Zénith, mais c'est pas oufissime en fait pour quelqu'un qui mise tout sur la voix. Je veux dire, si t'avais des effets pyrotechniques et tout, un truc comme ça,
est-ce
ça
qu'on
peut
est
cool,
sûr hein. qu'elle sera en capacité
oui.
d'être la Céline Dion qu'on connaît parce oui. qu'on connaît ses problèmes de santé?
Je pense qu'elle a un tel honnêtement.
Elle va pas planter comme en 2020.
Elle a un tel respect pour son public, honnêtement. C'est...
Non, je pense que la
Donc si elle fait ça, c'est qu'elle sait qu'elle pourra être au rendez-vous.
Et
puis d'ici septembre, je pense qu'elle va tout faire pour être au top de sa santé.
Bah, regarde, elle a choisi quand même l'Arena pour une question de courant d'air. Hein.
Et puis,
c'est fermé.
Et puis c'est deux soirs par semaine. Et si jamais un soir elle se sent pas bien, bah, ça pourrait être reporté au lendemain.
Et on annonce même de nouvelles chansons françaises écrites par Jean-Jacques Goldman.
Ça, c'est pas possible.
Moi, je propose qu'on lui en compose.
Tu arrêtes, ouais, Bruno.
Non, mais Goldman et Céline Dion, pour moi, c'est trop.
Pardon, mais c'est.
Je quitte la France.
Tu sais que l'album francophone le plus vendu en France reste celui de Céline Dion et Goldman 2. Ça n'a jamais été battu. Mais ça sera jamais battu parce que les albums se vendent plus.
Moi, j'étais plus sur les VRP. Remords, triste et paix, mais bon.
Allez, merci à Delphine, merci à Béatrice. Je croise les doigts pour vous. J'espère que vous aurez vos places.
Après, je lance quand même une petite annonce à BFM et à RMC. Si vous avez besoin d'une reporter, je suis là.
D'accord. On te fait confiance.
En espérant que tu gagnes le tirage au sort.
Bonjour. Allez, on va aller se balader un peu dans le salon ici, Global Industrie à Villepinte. On se retrouve demain en studio et on passe la main à Estelle Denis. Bonjour Estelle.
Salut Alain, salut les GG. On continue le débat dans un instant dans Estelle Midi. On va parler de ce chèque énergie de 153 euros en moyenne versé à 6 millions de Français. Est-ce que ce chèque, pour vous, il est justifié ou il est inutile? Dites-nous tout au 3216 et sur le WhatsApp d'Estelle Midi, 0612 424 424. Compte à rebours sur la Tour Eiffel, message partout dans Paris. Est-ce qu'on en fait trop autour du retour de Céline Dion? Et puis à 14h, à l'occasion de la sortie du film Drama, on parlera infidélité, trauma, argent. Est-ce qu'il faut tout se dire dans un couple? On attend avec impatience vos témoignages. Estelle Midi, c'est parti.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.